Merci beaucoup d'être là. Moi, je suis très heureux d'intervenir dans ce séminaire. Je vais en fait vous donner un morceau d'un travail en cours dont je ne sais même pas s'il fait partie de ces cycles-là dont tu as parlé. C'est une réflexion en fait sur les rapports entre cinéma et poésie. Et poésie et politique. Donc, je vais avoir un peu de difficulté à vous dire tout ça parce que il y a des choses à dire sur le film dont je vais parler, La Rabbia. Je pense qu'il est très utile de faire une analyse minutieuse d'un texte qui a juste précédé le travail de montage et qui s'intitule Il Trattamento, on dit en français le traitement dans le vocabulaire du cinéma pour dire comment je vais faire mon film. C'est donc le projet de Pasolini, c'est un très beau texte en prose. Et puis pour moi, l'horizon de ça, mais j'aurai certainement pas le temps de vous en parler, mais je le signale, c'est tout à fait fondamental, c'est qu'avant d'avoir réalisé un film intitulé La Rabbia, donc il a travaillé en automne 1962 et le film est sorti en 63. Pasolini avait eu bien précédemment, au moins 3-4 ans avant, le projet d'un recueil de narratif qui s'intitulait La Rabbia, qui n'a pas vu le jour. Il y a des traces qui restent dans les œuvres complètes de Pasolini et surtout, il y a un magnifique poème de 1960 qui s'intitule « La Rabbia » et qui mériterait une analyse, mais voilà, j'aurai pas le temps de le faire là ce soir. Je vais déjà vous donner des indications qui émergent de ce texte programmatique où en fait Pasolini assène de façon parfaitement, comment dire, il ne prend aucun gant, il ne fait pas d'analyse philosophique, il dit contre l'État, le mot qu'il emploie, c'est la normalité. Contre cette normalité historique qui est le destin politique de l'après-guerre et de l'après-après-guerre, enfin années 50, années 60, contre cette normalité, il faut faire lever ce qu'il appelle une rabbia poetica, une rage poétique, qu'il différencie de la rage en tant que telle, puisque son ennemi politique, celui qui va faire un autre montage, hein, Guareschi, est lui aussi animé d'une rage qui n'est pas poétique. La rage poétique dans ce petit texte qui s'intitule donc... Attendez, je ne vais pas vous parler. J'essaye d'aller un peu... de donner les moyens, comme le demandait Giovanni, de la discussion. Voilà, je vais aller directement ici. Dans ce texte sur le trattamento, il est question de dire que la rage poétique consiste à faire lever ce qu'il appelle un stato d'emergenza, que l'on traduirait donc comme état d'urgence, un état d'urgence retrouvé devant l'histoire, mais qu'on pourrait tout aussi bien traduire comme état d'émergence, quelque chose qui fait énormément penser lorsque Pasolini en parle à ce que Benjamin pouvait appeler l'origine, le tourbillon. C'est-à-dire ce qui permet une nouvelle lisibilité de l'histoire au moment où ça, dans le devenir, ça tourbillonne. C'est exactement ce que le montage de La Rabbia met en œuvre. Un état donc d'émergence et d'urgence où toute chose réapparaîtrait sous le jour d'une vérité inaperçue. C'est ça que vise l'opération du montage dans La Rabbia. Sur un matériau visuel dont il faut bien dire au départ qu'il est, aux yeux de Pasolini, immonde. C'est ce matériau d'actualité cinématographique qui prend les allures de neutralité, qui élabore des... disons, des espaces idéologiques qui le révulsent. Mais voilà, toute la question est là. Comment on va faire émerger un état d'urgence, celui-là même que veut constamment étouffer cet état de neutralité que met en cause Pasolini, un état de neutralité. On pourrait penser d'ailleurs aussi aux analyses plus récentes de Agamben sur l'état d'exception, parce que Agamben fait un raisonnement qui ressemble pas mal à celui de Pasolini. Hein, pour bien des points, Agamben apparaît comme un continuateur de certains aspects de la pensée de Pasolini, l'état d'exception étant justement caché sous cet état de normalité, de la même façon. Pour aller vite, la rage poétique, selon Pasolini, elle est deux choses. Premièrement, elle est poétique, je vais très vite. Ça veut dire qu'elle relève d'une décision quant au langage. C'est un acte de langue ou de langage, c'est une décision quant au logos. Et je dis bien logos parce que pour Pasolini, dans le texte du Trattamento, les poètes pensent. Ils pensent aux choses, ci pensano i poeti, ils pensent à l'histoire. Ils sont animés de rabbia intellettuale, ils sont animés de furia philosophica. Donc poésie ne veut évidemment pas dire regarder toute chose sous l'œil attendri et du sentimental, mais poésie veut dire ici prendre au sérieux, pour aller très vite là aussi, d'un côté une tradition romantique qui fait de l'imagination, hein, Goethe, Baudelaire, etc., qui fait de l'imagination un outil de connaissance, et une tradition matérialiste, Brecht, Mayakovsky, qui fait que c'est poétiquement aussi que Pasolini va parler colonialisme, misère, racisme, antisémitisme. Deuxièmement, cette rage est également cette rage poétique, elle est poétique et elle est rage, c'est-à-dire pas seulement un acte de langue ou de langage, mais un geste de cœur, si je peux dire, ou de corps, c'est-à-dire une décision quant au pathos. Et ça s'observe dans l'intensité, dans la durée des séquences choisies, dans la rythmique, dans la dramaturgie. Et ce qui, moi, me frappe et me fascine dans ce film, c'est qu'il y a comme la mise en place d'une émotion de rime visuelle créée par le cinéaste sur un matériau documentaire, je répète, sur un matériau qu'il détestait, hein, en général, créant ici des contrastes déchirants et là des affinités appelant le contact. Il y a une attitude dans ce texte, le Trattamento, une attitude revendiquée, clairement dialectique. Il faut à la fois le distacco, le détachement qui observe, et la rabbia, la rage qui prend position. Il y a en même temps une position quant à l'intelligible et une position quant au sensible. Voilà, je passe les citations pour essayer de ne pas trop prendre votre temps. Le montage de la rabbia, c'est la mise en forme de quelque chose qui arrive dans la conclusion du texte de Pasolini, de ce Trattamento, donc je vais un peu vite. Et lorsqu'il dit que l'histoire contemporaine est une histoire tragique et une histoire de division. Une des dernières phrases de ce texte, c'est pour dire que de cette division, et la division c'est padroni servi, les maîtres et les esclaves, c'est ceux qui sont eleganti et c'est ceux qui sont couverts de stracci, dit-il dans le texte. Je dis stracci parce que exactement à la même époque, Pasolini était en train aussi de travailler sur la ricotta, dont le héros s'appelle Stracci. Un montage pour mettre en forme une division politique, une division historique, je dirais même une division anthropologique, et un montage pour lequel Pasolini revendique une attitude très particulière. Ça vaut le coup d'être signalé aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. Pasolini commence par dire... Mon rôle n'est pas celui de l'artiste. très intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup matière à réflexion. Tout au moins, c'est ce qu'il dit à un moment donné dans une interview. Il dit « Mon travail a été journalistique plutôt que créatif. » Mon travail a été journalistique. Il n'est pas créatif. Pourquoi cette modestie ? Je pense qu'on peut l'aborder à travers la différence avec ce que Andy Warhol, dans sa série de Désastres, Disasters, faisait exactement à la même époque, en 1962. Et comme vous le savez peut-être, Andy Warhol est quelqu'un qui a énormément compté pour Pasolini dans le, disons, dans la polémique. Hein. Il y a pas beaucoup de références à Andy Warhol, au cinéma de Andy Warhol, hein, notamment dans le texte magnifique sur le plan séquence en 67. Il y a un texte directement consacré à Andy Warhol en 1975 dans lequel Pasolini dit, je cite, c'est dans les écrits sur la peinture, le message de Warhol, c'est celui d'une unité sclérosée de l'univers dans lequel l'unique liberté est celle de l'artiste, qui substantiellement en le dépression joue avec lui. La représentation du monde chez Warhol exclut toute dialectique possible, elle est en même temps violemment agressive et désespérément impuissante. Très grande critique de Warhol. Picturalement, moi j'aime beaucoup ça, mais l'attitude politique, en tout cas, elle est totalement différente. Elle est différente parce que justement, Pasolini ne va pas s'approprier, ne va pas faire. Vous voyez par exemple l'image que je viens de vous montrer, si vous voulez trouver la photo maintenant, vous devez payer des droits à la fondation Andy Warhol, mais pas au photographe qui a fait la photo. Vous voyez, il y a une appropriation même juridique de l'image chez Warhol, ce qui évidemment chez Pasolini n'a aucune raison d'être. La rabbia est revendiquée par Pasolini en fait non comme une œuvre, mais comme un essai, il le dit, hein, un saggio polemico, un essai. Bien sûr, il y aurait énormément de choses à tirer. Moi, c'est ce qui m'avait permis de mieux comprendre le cinéma de Haroun Farhoki, d'un texte simplement génial de Adorno qui s'intitule « L'essai comme forme ». Je ne vais pas y revenir, mais c'est un texte magnifique qui rendrait compte de beaucoup de choses. Je rappelle quand même « L'Arabia, c'est 62 », le fameux essai cinématographique de Michael Rom intitulé « Le fascisme ordinaire », c'est quand même 3 ans plus tard. Les premiers cinétracts de Godard, c'est 5 ans plus tard. Et puis ensuite, Chris Marker, Pelléchian, Farhoki, Janikian, etc. etc. J'ai l'impression que Pasolini a, pour ainsi dire, pris au mot des indications qui viennent du passé. Il y a un très beau livre sur la rabbia publié par la Cinémathèque de Bologne. Il y a une toute petite exagération, je pense, quand Roberto Chiesi dit qu'avec la rabbia, on assiste vraiment à la naissance d'un genre cinématographique totalement nouveau. Je pense qu'il faudrait quand même resituer ça dans une histoire de plus longue durée. Et je vous donne 2 éléments. L'un, c'est Krakauer, 1931, qui a écrit un magnifique article à cette époque sur les actualités cinématographiques et qui dit ceci. Il y a quelque temps, une association cinématographique radicale, disparue depuis, avait tenté de mettre sur pied, à partir du matériau disponible dans les archives d'images, des actualités cinématographiques qui soient vraiment une plongée dans nos propres affaires. Elle a dû accepter les coupures de la censure et n'a pas fait long feu. Cette expérience nous apprend en tout cas que, composées différemment déjà, les images d'actualité cinématographique y gagneraient une plus grande, c'est dans le Voyage et la Danse, aux presses universitaires de Vincennes, on traduit par Il gagnerait par une plus grande acuité de vue. Il s'agit en fait du mot Schaukraft, alors traduisant littéralement, force de vue. Et cette Schaukraft dont parle Krakauer, liée à, donc à un montage alternatif, hein, cette Schaukraft, on pourrait évidemment la rapprocher, dans le cas de l'Arabia, de ce que Pasolini, dans son texte programmatique, appelle une rage poétique. Alors, sauf que Rabbia Poetica, c'est Poetica. Donc, le pas qu'on peut faire au-delà de Krakauer et de Adorno lui-même, ça serait de dire qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça ma question, en fait. C'est ma question. Je vais vous juste exposer cette question, ne pas vraiment y répondre. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour que l'essai soit un genre poétique à part entière, pour que l'essai reste un essai au sens d'Adorno, au sens voilà, mais qu'il soit considéré, qu'il puisse accéder au statut de genre poétique à part entière, jusque et y compris dans l'affirmation de ses rages et de ses indignations politiques. À la leçon de Krakauer, il faut bien sûr ajouter la leçon de Brecht, je le dis rapidement, que Pasolini a beaucoup lu, Brecht, qui n'avait pas hésité, comme vous le savez, à monter les documents photographiques de la Seconde Guerre mondiale dans un contrepoint poétique, hein, ce sont les quatre petites lignes que vous voyez en bas, d'épigrammes, forme poétique, forme littéraire très ancienne et funéraire, qui en doublait la signification factuelle, puisque la signification factuelle, vous la... Elle est énoncée en quelque sorte dans la légende de la photographie que Brecht a pris soin d'inclure à l'image, ce qui est très intéressant. En tout cas, l'opération revendiquée par Pasolini délègue à quelque chose comme une poésie visuelle, évidemment verbale aussi, je vais en parler, c'est très important dans le film, le pouvoir de mener ce nécessaire essai critique. Poésie visuelle, essai critique. Donc, décodage idéologique d'un côté, mais accompagné d'une Schaukraft poétique, d'une puissance poétique, d'une puissance en tant que le poème permettrait de voir autre chose dans tout ce que montrent sur le mode manifeste les images consensuelles du ciné-journal. Il y a, ce film est plein de, comment pourrais-je dire, de rimes. Il y a des rimes, par exemple. Juste petits exemples, Pasolini montre des visages de traîtres, ce qu'il appelle lui-même des visages de traîtres. Alors ça, ce qu'on vient de voir, ce sont des fascistes espagnols, ça ce sont les syndicats, les gialli, comme on dit en Italie, les sindicati bianchi, les bianchi, les jaunes c'est en France, et j'ai d'ailleurs vu aujourd'hui aux informations télévisées qu'il y a des jaunes à Aulnay-sous-Bois, ils sont vraiment habillés en jaune en plus. C'est assez drôle. Et puis voilà, des fascistes de tout poil, avec une sorte de contre-motif, qui sont ici par exemple ces jeunes gens qui font la fête au moment de la libération à la fin de la guerre d'Algérie. Il sorriso della vera speranza, cette espèce de beauté inattendue que Pasolini repère ici et là dans ses tournages et dans ses séquences journalistiques, pourtant toutes faites pour ne pas les voir. Voilà. Il y a donc une sorte de courage dans ce film qui consiste à prêter confiance aux puissances critiques et poétiques du montage. Sur un plan, encore une fois dialectique, je veux dire, un plan critique, celui d'une vérité qui émerge, et un plan, je dirais, un plan de poésie, où la beauté surgit elle aussi. Il y a toute une réflexion sur la beauté, sur laquelle je vais revenir à l'instant. Je passe sur quelques citations. Un essai en rime donc, un essai critique où la laideur accusée, le mensonge pourfendu, question de la vérité, question de l'essai, laisse place aussi à d'impérieux effets de beauté. Effet de vérité, effet de beauté, et puis les voix. Alors, ceux qui connaissent le film savent qu'il y a, en général on dit il y a deux voix, c'est pas tout à fait vrai. Si on lit attentivement le scénario, il y a trois voix, il y a au moins trois voix, il y en a même quatre en fait, mais disons qu'il y en a trois. La première voix indiquée dans le scénario du film, c'est ce qu'il appelle « voci ufficiali », c'est les voix officielles. C'est-à-dire, c'est soit la voix de l'homme politique qui est enregistrée par le journaliste, soit la voix du journaliste lui-même qui, quelquefois, est là. La voix de l'homme politique, bien sûr, Pasolini va la couper très rapidement et la contredire. Mais il lui laisse cette voix aussi. La deuxième, donc, voix officielle. Ensuite, ce qu'il appelle « voce in prosa ». Il vaudrait mieux traduire en français par voix de prose, voce in prosa, ou voix en prose. Les textes sont lus par l'ami de Pasolini, le peintre Renato Guttuso, qui a une voix dure, une voix très politique. C'est en effet la voix politique, la voix d'une conscience politique, c'est la voix qui critique. Par exemple, dans le début, alors là je suis en train de comparer, j'ai fait une comparaison pas à pas du scénario et du film, ce qui ne va pas exactement tout à fait ensemble. Le scénario prévoyait tout un début qui n'existe pas dans le film, où par exemple on voyait le retour des cendres des soldats italiens morts en Grèce. Il y avait donc une voix officielle qui leur rendait hommage, et la voix de prose qui coupait cette voix officielle et qui s'adressait à cette voix officielle en disant oh, « voix sans affect, voix sans pitié, voix de la mauvaise conscience, voix qui les a envoyés à la mort ». Donc une voix qui accuse l'autre voix. Et puis bien sûr, cette voix de poésie, cette « voce in poesia », la plus importante sans doute dans le film, que Pasolini délègue à un autre de ses amis, qui est l'homme de lettres, Giorgio Bassani. C'est une voix dont la douceur, et souvent la douleur d'ailleurs, tonalité élégiaque beaucoup, vous verrez, contraste fortement avec le tranchant de la voix de prose. Et c'est comme s'il fallait incarner dans les contrastes de timbre et de rythme la double face justement du film lui-même, face politique et face poétique. Dès le début du film, il y a un carton où il est écrit et également prononcé que Pasolini a fait ce film. J'ai écrit ce film sans suivre de fil chronologique ni même logique, peut-être, mais en suivant seulement mes raisons politiques, les mie ragioni politiche, et mon sentiment poétique, il mio sentimento poetico. Et sur ces paroles danse dans les cieux une sorte de rime visuelle éprouvante. On voit le soleil qui s'élève au milieu des nuages, suivi d'une explosion atomique dont la clarté semble tuer le soleil lui-même et dont le nuage semble tuer les nuées elles-mêmes. Rime donc, rime de paroles. Vincitori mediocri, bene male. Vous allez entendre la rime magnifique, bellezza ricchezza. Ritournelle de mots, morire a Cuba, mourir à Cuba, bon, etc. Et là-dessus, des séquences visuelles formant rimes, gestuelles, rimes gestuelles, rimes symboliques, rimes formelles. Par exemple, foules en deuil, foules en colère. Scène de libération, scène d'enfermement, écume de l'eau, tableaux abstraits. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai une séquence. Elle vient de l'édition normale du film. Là, j'ai utilisé pour faire les photogrammes l'édition restaurée, magnifiquement restaurée, éditée par la Cinémathèque de Bologne. Voilà. Très belle édition. Corps tournoyant sur le sol d'une ballerine russe, corps tournoyant dans l'air d'une trapéziste russe. cadavre pendant la guerre de Cuba, fête de la victoire, bombardier, enfin avion français dans le ciel algérien, enfant qui sanglote de terreur. Et ce sont des images sur lesquelles la voix de poète prononce tristement des mots de, voilà, de « Ah France, la haine, ah France, la peste ». Un vrombissement terrible, stupide, irrespectueux, une musique qui finit dans le trauma d'un enfant, dans un sanglot qui ébranle le monde. Et tout cela soutenu par des basses continues, il faudrait faire une analyse musicale de ce film, des leitmotifs, par exemple cette image fixe hein, qui est dans le scénario, elle est notée « quadro fisso teschio », plan fixe crâne, qui revient assez souvent. Et bien sûr, le leitmotiv des zébrures dans le ciel au cours d'une explosion atomique. Ce qui m'a sollicité pour travailler sur ce film, en fait, c'est la séquence, ou ce que j'appellerais le chant 64 de ce poème visuel, qui en comporte 66. Parce que je m'intéresse en ce moment à l'iconographie, enfin, je m'intéresse aux mineurs, voilà. C'est, en fait, c'est une réflexion sur le grisou. Qu'est-ce que c'est le grisou ? Sentir le grisou. Et donc, les mineurs ressurgissent dans ce film. Ils ressurgissent comme s'ils ressurgissaient du fond de leur mine. Ils ressurgissent à la fin du film, depuis le film lui-même. Ce sont des mineurs frappés par une catastrophe de grisou. 22-23 mars 1955, dans une usine à Morgnano, près de Spoleto, faisant 23 morts et 18 blessés. Pasolini a intitulé ce chant Sequenza della disgrazia in miniera, séquence du malheur à la mine. Elle concentre un grand nombre de motifs essentiels du film. Et donc elle est concertée. Et donc je voudrais simplement vous montrer comment elle est amenée. Tu es d'accord,
hein? Oui, je suis d'accord.
Bon, ce qu'on voit dans cette séquence, c'est justement le peuple, le petit peuple des mineurs italiens et de leur famille, filmé au moment de sa plus grande détresse. Évidemment, il ne faut pas se tromper sur la nature politique de la lecture de Pasolini. Cette catastrophe n'est absolument pas une catastrophe naturelle comme veut le faire croire le reportage journalistique et comme on veut nous le faire croire quand on regarde la télé aujourd'hui. Je crois qu'en 2004, il y a eu 6000 morts par coup de grisou dans les mines en Chine, par exemple. 6000 morts. Bon, c'est pas du tout des catastrophes naturelles, ce sont des catastrophes humaines et sociales. Pour Pasolini, en ce qu'elle touche la vie humaine de toute une société dans toute cette dimension, mais aussi en ce qu'elles prennent leur source dans un certain rapport de force sociale et politique, c'est-à-dire que si le grisou a explosé ce jour-là, c'est que la société Terni, concessionnaire du gisement, ne portait qu'une attention relative au protocole de sécurité des mineurs. La scène de la mine arrive là comme une variante, une variation plutôt, il vaudrait mieux dire, du motif principal de ce film qui est, si je pouvais presque citer un livre récent, qui est le mal que l'homme fait à l'homme, le mal que l'homme sait faire à l'homme. Donc, quand l'homme expose l'homme au danger mortel et à une certaine inhumanité des conditions de travail, c'est comme ici. Quand l'homme voue son semblable aux souffrances terribles de l'enfermement, image de prisonnier, image de camp, quand l'homme fait subir à son semblable la souffrance de l'extradition, ce sont les images de réfugiés hongrois au début du film, ou bien sûr la répression policière et militaire, qui est l'un des plus puissants leitmotifs de ce film. Et donc je vais rappeler précisément comment émergent de telles images avant de vous les montrer. C'est une façon, pardonnez-moi peut-être, d'orienter votre regard, mais Voilà, je vous dis comment je peux, moi, décrire ça. Premièrement, noir, absolu et silencieux, qui marque une transition majeure dans le déroulement de l'œuvre tout entière. Il y a d'abord un cartello scuro vuoto, et c'est ce qui est écrit dans le scénario. Silence, vrombissement d'avions et bombardements lointains, c'est ce qui n'est pas dans le film. Il va supprimer les bruits et le plan sera complètement silencieux. D'où une voix s'élève avec cette explosion atomique. Une voix qui est notée dans le scénario Didascalie. Donc c'est une quatrième voix. Il l'appelle Didascalie comme si c'était le prénom d'une femme. C'est voilà, quelque chose comme ça. Mais elle est lue par la voce in poesia. Elle est lue par Bassani. Et je traduis parce que ce que vous allez voir, les traductions sont moyennes. Quelquefois, carrément, il y a une erreur très grosse, mais c'est pas grave. Je traduis à ma façon. Joie, mais combien inextinguible la terreur, en mille parties du monde et dans notre mémoire, en mille parties de l'âme, la guerre n'a pas cessé, et même si nous ne le voulons pas, nous ne voulons pas nous en souvenir, la guerre est une terreur qui ne veut pas cesser dans l'âme, dans le monde. Tout ça écrit en vers, bien sûr. Deuxièmement, le scénario de Pasolini prévoyait alors deux séquences qui ne vont pas apparaître dans le film. Mais c'est intéressant de savoir. Premièrement, il voulait que, toujours dans un silence complet, on voit le visage d'un soldat traumatisé qui se souvient, terrorisé de la guerre. Je viens de citer le scénario. Et deuxièmement, sequenza campi di concentramento di sterminio, impiccagioni, esecuzioni, mucchi di cadaveri a Buchenwald, etc. Camp de concentration, d'extermination, des scènes de pendaison, d'exécution, des amoncellements de cadavres à Buchenwald, etc. Ces deux séquences n'apparaîtront pas dans le film. Ce qui apparaît dans le film, en revanche, ou à la place, ou comment, enfin voilà, c'est ça. Alors, bon, le visage en gros plan de Marilyn Monroe, si on n'a jamais vu le film, on est stupéfait. C'est une photo, c'est pas un plan en mouvement, immobile beauté du visage, et une musique qui arrive. Et la musique, ce n'est justement pas « My heart belongs to daddy », certainement pas. C'est une musique, voilà, c'est une musique qui maintenant est très célèbre et même sirupeuse aujourd'hui. À l'époque, elle venait de surgir du travail d'un musicologue dont j'ai oublié le nom, mais on ne la connaissait pas avant 1958. Donc c'était une ancienne musique récente, si vous voulez, à l'époque. C'est le fameux Adagio d'Albinoni, Adagio en sol mineur. Bon. Et je crois que c'est une des plus belles séquences de l'Arabia, où semble venir s'incarner cette sorte de beauté tragique, mortelle, mortifère, que Pasolini n'a jamais cessé d'interroger. Ça va de Hackathon jusqu'à Salo, bien sûr. L'apparition de Marilyn avait été préparée dans le film en deux occurrences. Deux stars, Ava Gardner qui descend de son avion à Fiumicino, comme une reine un peu kitsch, toute couverte de fleurs, dans la séquence 26, puis Sophia Loren, qui observe avec un petit recul d'horreur, elle est assez pain bêche dans cette séquence, le dépeçage d'une anguille vivante sur un marché aux poissons. Sans oublier que ces apparitions de beauté, les deux dont je viens de parler, qui se suivent, Ava Gardner, Sophia Loren, sont scandées par le leitmotiv de cette apparition de la mort. Mais Pasolini ne se satisfait pas d'évoquer la mort au voisinage direct de la beauté. C'est pas aussi simple que ça. Ça, si c'était que ça, ça serait de la vanité. Ça serait le thème classique, moraliste, de la vanité, ou ça serait le thème, je dirais, des peintres de la Renaissance nordique, la jeune fille et la mort. Non, 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 c'est bien, bien, bien plus précis que ça, aux yeux de Pasolini. Parce que c'est une analyse qui est à la fois plus anthropologue, façon Warburg, ou plus matérialiste et politique, façon Benjamin. Il va interroger le male mortale, et le mal mortel de cette ninfa, hein, Marilyn, retrouvée morte à Hollywood quelques semaines à peine avant qu'il commence son travail. Donc c'est une idée de dernière minute qui arrive là. Elle est morte le 5 août 62. Il va interroger ce mal mortel selon la rythmique ou la dialectique d'un temps non abstrait qu'est l'histoire elle-même. Bien sûr, Pasolini est ému en tant que cinéaste. Un cinéaste comme lui, il a mis en scène des femmes très très belles, La Callas, Anna Magnani, Silvana Mangano, etc. Il s'émeut en tant qu'artiste qu'une autre artiste aussi rayonnante se soit donnée la mort. Mais il refuse d'en faire, d'un côté, une allégorie abstraite. Ce n'est pas une affaire de concept, et encore moins, il refuse encore plus plutôt, d'en faire un mélodrame à l'américaine. Ce n'est pas une affaire de sentiments privés. C'est quelque chose qu'il va interpréter à la lumière de ce que je pourrais appeler une anthropologie politique de la beauté dans le monde contemporain. Une anthropologie politique de la beauté. Le thème « Gioia Terrore » va devenir maintenant le thème « Bellezza male », beauté mâle, qui justifie tout le montage contrasté de cette longue séquence où l'on voit Marilyn Monroe, enfant, jeune fille, chanteuse enrôlée dans la guerre de Corée, star internationale, puis l'objet d'un grand deuil officiel, et qui apparaît entre des images de procession pour la passion du Christ, gratte-ciel, travail des paysans, boxeurs, fusée, ruine, concours de beauté où l'on voit des mannequins défiler et explosion atomique expérimentale où l'on voit des mannequins détruits. Sur toutes ces images, la douce et triste voix de poésie évoque Marilyn comme une figure anachronique tendue entre le monde antique et le monde futur. Cette voix, donc, s'adresse à Marilyn sur le ton d'une élégie sensuelle. Il s'adresse à elle comme à une pauvre petite sœur de la société américaine. Il invoque sa beauté, son sourire, ses seins, son petit ventre nu, tout cela qui ne fut à un moment, comme il le dit si bien, qu'indécence par obéissance, et donc quelque chose de la beauté qui est appelé à devenir une aliénation, c'est-à-dire un mal mortel. Ainsi, tu as emporté avec toi ta beauté. Voilà l'erreur qu'on peut noter dans les sous-titres que vous verrez. Spari, hein, c'est elle disparue. Là, il y a dans le film, tu disparais. Spari, c'est elle a disparu, c'est-à-dire la beauté. C'est tout un poème, non pas sur Marilyn, mais bien sûr sur Marilyn, mais surtout sur la beauté, la question de la beauté. Elle a disparu comme une poussière d'or, du stupide monde antique et du féroce monde futur, était demeurée une beauté sans honte, à suggérer les petits seins de petite sœur, le petit ventre si aisément nu, et pour cela c'était la beauté. Tu la portais toujours par-devers toi comme un sourire au milieu des larmes, impudique par passivité, indécente par obéissance. Elle a disparu, ta beauté, comme une blanche colombe d'or, ta beauté survivante au monde antique, exigée par le monde futur, possédée par le monde présent, devint un mal mortel. Et alors, tout explose de nouveau, donc quatrième stade. Silence absolu à nouveau, silencio assoluto, on lit ça sur le scénario. Silence de l'inextinguible terreur atomique. Et cette sorte de contraste entre une voix poétique qui, sur un fond de silence absolu, dit juste « Ah, figli, ah, enfant ». Dans le scénario, il y avait une phrase en plus. « Non c'è più nulla, nulla, nulla ». Mais ça n'apparaît pas dans le film. poème avant que ne revienne la sentence implacable de la voix de prose qui énonce « Lotta di classe, ragione di ogni guerra ». Lutte des classes, raison de toute guerre. Et alors, vous voyez, vous verrez bien, vous entendrez bien comment les deux voix se répondent, se succèdent, se contrastent entre elles. Et ça induit le spectateur à regarder ces images de deux façons différentes. C'est ça qui est magnifique. Les deux voix suggèrent deux façons de regarder. Bien sûr, on va voir, en voix de prose, on va voir l'arme atomique comme une arme de la lutte des classes. C'est ce que disait Brecht, c'est ce qu'à l'époque de Pasolini disait Hannah Arendt et encore plus fermement Günther Anders, par exemple. Mais on va les regarder encore, ces explosions. Et là, Pasolini ose persister devant les armes atomiques. Il ose persister, persévérer dans sa question poétique adressée à la beauté des formes. C'est incroyable. Il ose parler de beauté. On vient de quitter Marilyn. Il ose continuer dans son questionnement poétique. Et de ce que vous voyez là, on passe à ça. On passe à quatre images de tableaux abstraits de Jean Fautrier, dont le lyrisme vient souligner ou accuser la beauté même des cieux bouleversés. Moment lyrique, lui-même immédiatement accusé, souligné, à travers une réflexion d'ordre. On vient de voir un tableau abstrait et on est immédiatement dans un commentaire politique. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Parce que ce qui est dit là, de façon très politique, mais alors là, le détail est fondamental, parce que c'est politique, mais c'est lu par la voix de poésie. C'est lu comme une poésie, car c'est une poésie. Donc je le dis en français, c'est beaucoup moins beau, vous verrez en italien, c'est magnifique. La classe patronne de la beauté, fortifiée par l'usage de la beauté, parvenue aux confins suprêmes de la beauté, là où la beauté est seulement beauté. La question politique qui est posée, je parle trop là, ça va ?
Non, ça va.
10 minutes ?
Encore 10 minutes.
Ok. La question politique posée par Pasolini, c'est évidemment donc, pourquoi des poètes ? Pourquoi des peintres abstraits ? Pourquoi des cinéastes aussi, puisque les cinéastes nous montrent de la beauté. Des cinéastes nous montrent Marilyn ou Anna Magnani, mais bien d'autres genres de beauté. Pourquoi faire œuvre, faire don de beauté dans des temps, des sombres temps, comme dirait Brecht, où existe une classe patronne de la beauté ? La question politique, elle est très claire. C'est pourquoi montrer la beauté si montrer la beauté équivaut à l'abandonner entre les mains de l'ennemi. Vous voyez la question ? Ça veut dire, la beauté serait-elle elle-même un objet de lutte des classes ? Pasolini n'a même pas à répondre. C'est évidemment oui, et c'est ça qu'on voit juste après. C'est ça qu'on voit, des bourgeoises typiques, typiquement vulgaires, à force d'être, comme je le lis dans le scénario, ingioiellate, chargées de bijoux, lors de soirées d'opéra ou quand on fait des enchères pour acheter une belle œuvre de Barnett Newman, par exemple, ou de Fautrier, voilà. C'est-à-dire la question de l'appropriation bourgeoise de la beauté, qui est aussi appropriation de la nature et de l'histoire elle-même. La classe patronne de la richesse, parvenue à une telle confiance dans la richesse, au point de confondre la nature avec la richesse, à ce point perdue dans le monde de la richesse, qu'elle confond l'histoire avec la richesse. Comme Bataille, Pasolini est complètement taraudé, je dirais, par le rapport entre la beauté et le mal. Et il va situer le conflit à l'intérieur de la beauté elle-même. Alors je reprends un peu les éléments de ce qui est en fait un argument. Vous avez Marilyn, c'est une beauté par obéissance. Vous voyez, vous avez une personne rayonnante, antique et juvénile aux yeux de Pasolini. Juvénile et antique, ça va toujours ensemble. Une beauté que s'approprie la classe bourgeoise à travers ce que Adorno nommait déjà l'industrie culturelle et que Guy Debord ne nommait pas encore la société du spectacle. Regardez la beauté de ces explosions atomiques. Qu'est-ce qu'elles sont, sinon la beauté par terreur, la beauté d'un processus de destruction absolue aux mains des seigneurs de guerre. Regardez cette beauté, c'est fautrier, c'est de la beauté abstraite, et c'est ce que Pasolini, peu importe s'il a raison ou tort, là, je pense qu'il a tort, mais c'est pas grave, ça fait partie de son argument. Pour lui, c'est la beauté pour la beauté, point. C'est l'art pour l'art dont il ne supporte, qu'il ne supporte pas. Et qu'au fond, la bourgeoisie, à ses yeux, s'approprie cette beauté de la même façon qu'au Moyen-Âge, Scrovegni s'appropriait la beauté de Giotto pour, disons, pour apaiser son éventuelle mauvaise conscience, comme Monsieur Frick l'avait fait, qui s'occupait, il y a pas mal de mineurs engagés par Frick qui sont morts de coups de grisou, eux aussi, et puis qui a créé cet extraordinaire musée d'art à New York, ou François Pinault aujourd'hui, et des gens comme ça, voilà. Et voilà pourquoi dans la séquence qui suit immédiatement, vous voyez deux portes solennelles qui se ferment devant nos yeux, comme si la beauté nous était refusée par les maîtres de la richesse. La classe de la beauté et de la richesse, un monde qui ne vous écoute pas, la classe de la beauté et de la richesse, un monde qui vous laisse sur le pas de sa porte. Et c'est là que les mineurs reviennent depuis le fond du film, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est là qu'émerge ce que j'appellerais l'autre beauté, la beauté si étrangement belle de porter son autre, qui est la douleur la plus antique. 23 mineurs remontés depuis le fond de la mine, portés par leurs camarades et pleurés par leurs épouses ou par leurs mères. C'est cela qu'on voit d'abord, c'est un contrepoint exact aux vies chargées de bijoux des bourgeoises, c'est un contrepoint également à la mort de Marilyn elle-même en forme de poussière d'or. Ce sont des femmes en gris, en noir, des femmes qui se débattent dans le deuil, qui se lamentent, qui se taisent dignement. Comme ici. Comme ici. Ou qui lancent leurs gestes de colère contre les autorités, capables seulement, comme on dit aujourd'hui, de gérer l'accident. Et Pasolini composera en voix de poésie quelque chose véritablement comme un Trénos, un chant funèbre, très humble, pour ce peuple atteint par le coup de grisou. Je vous le laisserai découvrir. Il est plutôt bien traduit. Voilà, je vais m'arrêter là, tout en maintenant peut-être simplement indiquer les questions qui surgissent. Les questions qui surgissent, c'est en particulier si on prend garde au fait que avant tout cela, il y a un très simple poème qui s'appelle La Rabbia et qui pose déjà toutes les questions, même si ce poème se concentre à un moment donné sur pourquoi moi, poète, je n'arrive plus à décrire une rose, une simple rose. Donc le mot rabbia arrive après le mot rosa, comme le mot furore va arriver avec le mot cuore, le mot le plus poétique, traditionnel du terme. Et qu'est-ce que c'est que ce type de... Qu'est-ce que c'est au fond? Et ça sera l'objet des fameux textes des années 67, 67, 68, surtout 67. Qu'est-ce que c'est qu'un cinéma de poésie? Voilà, c'est la question que je n'ai pas fini de... Voilà. Et je vous montre la séquence, après on discute.
Gioia, ma quanto inestinguibile terrore. In mille parti del mondo e nella nostra memoria. In mille parti dell'anima la guerra non è cessata. Anche se non vogliamo ricordare, La guerra è un terrore che non vuole finire.
Nell'animo, nel mondo.
Del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli, tu, sorellina più piccola, quella bellezza l'avevi addosso umilmente e la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla, perché altrimenti non sarebbe stata bellezza. Il mondo te l'ha insegnata, così la tua bellezza divenne sua. Del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu te la sei portata dietro come un sorriso obbediente. L'obbedienza richiede troppe lacrime inghiottite, il darsi agli altri troppi allegri sguardi che chiedono la loro pietà. Così ti sei portata via la tua bellezza, sparì come un pulviscolo d'oro. Dello stupido mondo antico e del feroce mondo futuro era rimasta una bellezza che non si vergognava di alludere ai piccoli seni di sorellina, al piccolo ventre così facilmente nudo. E per questo era bellezza. La stessa che hanno le dolci ragazze del tuo mondo. Le figlie dei commercianti vincitrici ai concorsi a Miami o a Londra. Sparì come una colombella d'oro. Il mondo te l'ha insegnata e così la tua bellezza non fu più bellezza, ma tu continuavi a essere bambina, sciocca come l'antichità, crudele come il futuro, e fra te e la tua bellezza posseduta dal potere si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente. La portavi sempre dietro come un sorriso tra le lacrime, impudica per passività, indecente per obbedienza. Sparì come una bianca colomba d'oro. La tua bellezza sopravvissuta dal mondo antico, richiesta dal mondo futuro, posseduta dal mondo presente, divenne un male mortale. Ora i fratelli maggiori finalmente si voltano. Smettono per un momento i loro maledetti giochi, escono dalla loro inesorabile distrazione e si chiedono: è possibile che Marilyn, la piccola Marilyn, ci abbia indicato la strada? Ora sei tu, quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso. Sei tu la prima, oltre le porte del mondo, abbandonato al suo destino di morte. Sogni di morte. Ah, figli, erano mostri le madri, lente fatalità che si compiono fuori dal mondo. Noi non siamo mai esistiti. La realtà sono queste forme nella sommità dei cieli.
lotta di classe, ragione di ogni guerra, soavi forme di cancro, armi della lotta di classe, coperchi del terrore che domina il mondo, rose rognose della guerra, seminata dalla lotta di classe.
La classe padrona della bellezza, fortificata dall'uso della bellezza, giunta ai supremi confini della bellezza, dove la bellezza è soltanto bellezza. La classe padrona della ricchezza, giunta a tanta confidenza con la ricchezza da confondere la natura con la ricchezza. Così perduta nel mondo della ricchezza da confondere la storia con la ricchezza. Così addolcita dalla ricchezza da riferire a Dio l'idea della ricchezza. La classe della bellezza e della ricchezza, un mondo che lascia fuori dalla sua porta. E la classe degli scialli neri di lana, dei grembiuli neri da poche lire, dei fazzoletti che avvolgono le facce bianche delle sorelle, delle attese cristiane, dei silenzi fratelli del fango e del grigiore dei giorni del pianto, la classe che dà supremo valore alle sue povere mille lire e su questo fonda una vita, pena capace di illuminare la fatalità del morire.
Voilà.